Je vous invite à vous entrer dans l'émission Je le danse en congolais avec Kélim Koupé à la présentation. Bonsoir, c'est son lycée de salle de violences sexuelles enregistrées dans le centre d'intervention psychosociale de Kisangani entre le mois d'avril et octobre 2010 dans le Haut-Touélé, dans 119 cas pour le seul mois d'octobre. Comment expliquer la récrudescence des violences sexuelles en RDC? Que faire pour réprimer effectivement les auteurs de ces actes? C'est le sujet de dialogue entre Congolais de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission Maître Roussa Louko. Il est conseiller juridique et porte-parole du ministre de la Justice et des Droits Humains du gouvernement central. Il est en ligne. Bonsoir, Maître Roussa Louko. La réalisation me signale qu'il n'est pas encore en ligne avec moi dans ce studio. Professeur Chibangu Kalala, professeur de droit et député national de la majorité. Bonsoir, professeur.
Bonsoir, madame.
Et madame Saïda Mwangilwa, elle est membre du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CASCO, plateforme de défense et de protection des droits des femmes. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Vos réactions nous sont déjà parvenues. C'est le cas de Maître Dickler Sonkulu depuis le Kassi au Katanga. Je pense, pour ma part, que les cas congolais fondent beaucoup d'espoir sur les organismes internationaux qui, en principe, sont censés venir après lui, et c'est là où on appuie, jusqu'au point d'oublier même ses fonctions régaliennes, que l'État congolais prenne paix et cause pour mettre fin à ce fléau. Et mon Kasangala de Kinshasa, il est de l'autorité de l'État congolais de mettre fin à ce fléau de viol chez les femmes par facilité de la justice et selon les règles de contamination. Les viols chez les femmes quittent l'est du pays petit à petit et se propagera sur toute l'étendue de la République, sachant qu'ici à Kinshasa, les cas de violence chez les femmes mineures et même chez les enfants ne sont plus à compter. Merci de nous suivre à Ifiro dans la province orientale sur la 90.1 et à travers le monde sur www.radio-okapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
717, c'est le nombre des cas de violences sexuelles qui ont eu lieu d'avril à fin octobre de cette année dans le district du Haut-Touélé en province orientale. Notez que pour le seul mois d'octobre, 119 cas ont été enregistrés. Le centre d'intervention psychosociale qui a publié ces statistiques affirme qu'il y a une forte hausse de ce phénomène. Côté prise en charge, hormis les victimes enregistrées dans la cité d'Isiro et le territoire de Niangara, toutes les autres n'ont pas bénéficié des soins médicaux adéquats. Le chef des projets de ce centre plaide pour la prise en charge médicale de ces nombreuses victimes de violences sexuelles de l'arrière du district du Haut-Touélé. Le point de ce reportage avec Jacques Moukokole.
Pour les cas enregistrés en octobre dernier, deux concernent des mineurs, dont une fille de 13 ans violée à Wamba, alors qu'elle allait s'approvisionner en eau potable à la source. Le second est un viol commis sur un garçonnet de 4 ans par un jeune homme d'une vingtaine d'années. Le présumé auteur croupit en prison en attendant son jugement. Si ce dernier amené à partir avec la justice, en revanche, le présumé violeur de la fille à Wamba court allégrément dans la forêt. Il avait eu tout de même le temps de s'évader dans la nature avant l'arrivée tardive des gens alertés par le pleur de la victime. Selon le responsable du projet CIP, 106 autres mineurs ont été victimes de violences sexuelles au cours du mois dernier. Parmi elles, 53 ont été prises en charge médicalement grâce à un appui du FNIAP. Hormis ces dernières, celles de la cité de Niangara en ont également bénéficié à la faveur d'un appui des Médecins Sans Frontières Belgique. Cependant, pour les victimes d'autres localités, notamment Wamba, Rungu, Nangazizi et Ibambi, la prise en charge pose problème faute de produits adaptés. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Merci beaucoup Jacques Moukonkole, Maître Roussa Louko, bonsoir.
Bonsoir Kaline.
Voilà, vous êtes conseiller juridique et porte-parole du ministre de la Justice et des Droits Humains du gouvernement central. Qu'est-ce qui explique, d'après vous, à votre avis, la recrudescence des violences sexuelles en RDC, malgré la publication des nombreux rapports sur des ONG internationales et même nationales pour dénoncer ces faits?
Alors, madame, il faut d'abord très rapidement faire la distinction entre cette calamité de violences sexuelles qui ronge la République démocratique du Congo, notre pays. Il faut distinguer d'abord les viols de guerre ou viols et crimes contre l'humanité. Il faut également distinguer de cela les viols post-guerre ou post-conflit et les viols urbains. Celui qui se commettait donc dans nos quartiers, dans nos rues, parce que là, il se pose un problème. Ce sont des endroits qui sont en principe en paix et dont des viols se commettent sans aucun lien avec la guerre. Donc il faut donc faire ces trois distinctions-là. Alors la première catégorie est liée principalement au conflit armé, à la guerre, donc la guerre qui nous est venue de nos voisins. La seconde catégorie est liée aux groupes armés hérités et, n'est-ce pas, qui ont été suscités par la fin de cette guerre. Et la troisième catégorie, les viols, donc les viols urbains, ces viols urbains auxquels vous avez omis d'ajouter, n'est-ce pas, les viols commis par les enfants, ce qu'on appelle en face de l'État, aujourd'hui on dit les enfants en conflit avec la loi. Parce que la plupart des viols urbains, nombreux sont, parmi ces auteurs, les enfants d'un deuxième tiers de moins de 18 ans. Il fallait donc ajouter cela. Et c'est ces viols-là qui, apparemment, préoccupent votre émission. Donc, ces viols-là, qui sont, n'est-ce pas, commis dans nos milieux urbains et dans nos cités, sont des viols selon les statistiques des ONG, notamment celle qui a donné ce rapport, et d'autres ONG spécialisées, n'est-ce pas, dans ce domaine de lutte contre les violences sexuelles, eh bien, cette recrudescence est issue principalement, madame, à plusieurs facteurs, dont principalement, je vais citer rapidement, un, d'abord, la consommation généralisée des stupéfiants, drogue et alcool, par la jeunesse et les hommes en uniforme. D'abord ça, donc, cette recrudescence dans la consommation, cette généralisation, et ensuite, c'est ajouté à cela la très forte publicité ou médiatisation des boissons alcooliques sur nos médias publics et privés.
Vous parlez des violences dans les villes, dans les zones urbaines, c'est ça?
Oui, dans les zones urbaines, finalement, parce que c'est ce qui apparemment préoccupe votre émission.
Non, nous parlons des violences sexuelles en général, pas seulement dans les zones urbaines et même à l'est de la RDC, dans les zones en conflit.
À l'est, principalement, c'est la guerre et l'héritage de la guerre, c'est-à-dire les groupes armés, les milices, qui continuent à perpétuer les violences sexuelles, qui fait que nos villageois ne peuvent plus aller dans leurs chats et rentrer indemnes parce qu'il y a des groupes armés, des miliciens partout.
Oui, vous parlez de la guerre. Est-ce qu'en ce moment, il y a encore la guerre à l'Est?
Non, les groupes armés, il y en a encore. Il y en a toujours, et vous le savez d'ailleurs, vous les diffusez chaque fois, les groupes armés, il y en a toujours disséminés dans tous nos territoires, du Sud Kivu, du Nord Kivu, de l'Ituri, n'est-ce pas, du Maniema. Donc il y en a encore les hommes en uniforme incontrôlés. Alors j'ajoutais à la liste de causes de cette recrudescence des viols urbains, l'influence des musiciens, leur cri et leur chanson, généralement obscène sur la jeunesse. J'ajoute une autre raison par rapport donc toujours à ces recherches des ONG, l'Internet, l'hérésie X, qu'on appelle X aujourd'hui, ou pornographique, accessible à toute la jeunesse. Et en fait, la promiscuité et l'habillement léger et licencié des jeunes dames. Voilà un peu principalement les raisons qui font que les viols urbains puissent être en recrudescence actuellement, n'est-ce pas, dans notre pays. Donc, l'effet du pays, c'est la guerre. Et l'héritage de la guerre, c'est-à-dire les groupes armés, les miliciers et consorts, qui sont les principaux, n'est-ce pas, auteurs de ces viols, comme ça s'est passé dernièrement à Walikale et à Masisi, et au Kindu également vers Punia et Kasongo et Kibombo. Donc, ça, c'est les viols qui se passent à l'est du pays. Mais dans les milieux urbains, comme on parle des Isiro, vous le savez évidemment, que Kisangani a toujours été, malheureusement, parmi les villes qui ont été les victimes principales des violences sexuelles urbaines. Donc, depuis longtemps, la province orientale a toujours été la victime principale des violences sexuelles urbaines. Donc, voilà un peu, brièvement, brosser les quelques réseaux qui font que, n'est-ce pas, la reconnaissance des violences sexuelles urbaines, je parle des violences sexuelles urbaines, puisse être, n'est-ce pas, à la une actuellement sur vos médias et dans tous les autres médias. Donc, vous pourrez
connaître
ce que vous bon avec la suite de l'émission.
Merci, maître Rufin Aloko, professeur Kibangu Kalala. Vous êtes professeur de droit et député national de la majorité. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être à la base de cette recrudescence des violences sexuelles?
Ok, Madame Kelly, d'abord, merci pour m'avoir invité à cette émission du dialogue entre les Congolais. Bien, la question que vous posez, c'est une question très, très importante. C'est de savoir pourquoi, pendant ce temps, depuis un certain nombre d'années, eh bien, ce phénomène de violence sexuelle contre la femme a pris une très grande ampleur dans notre pays. Eh bien, bien avant la guerre, à l'époque de la Deuxième République, on ne parlait pas de ce phénomène. Et que ce phénomène a pris beaucoup d'ampleur avec le déclenchement de la guerre civile généralisée, avec le désordre, l'effondrement de l'appareil de l'État, de l'appareil judiciaire, de l'impunité généralisée. Et c'était devenu un peu comme un sport national où certaines personnes ont trouvé que c'était normal d'humilier la femme congolaise. Et cela sans sanction. Et donc les causes du pour laisser cette affaire ça aux criminologues et aux sociologues qui vont étudier pour savoir très bien, je ne vais pas beaucoup perdre du temps avec ça. Maintenant, ce qui est important, madame, aujourd'hui, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait pour éradiquer ce mal, ce fléau qui humilie tout un pays. Et dernièrement, les femmes ont pas marché à Bukavu, et Bukavu est comme la ville, la capitale du viol dans le monde. C'est une honte terrible. Un tel mal peut être considéré à travers le monde comme étant un mal qui a eu domicile, qui a son bassin au Congo. C'est inadmissible.
À l'Assemblée, vous avez adopté déjà une loi sur les violences sexuelles. Est-ce que cette loi est appliquée au honorable Kibangu Kalala?
C'est ce que je veux dire, madame. Vous savez, André Malraux, qui était le bras droit du général de Gaulle, un homme très célèbre, inconnu, a dit quelque chose de très important. Il a dit voilà. Lorsqu'on se trouve devant une situation de désordre, d'anarchie, comme c'est le cas aujourd'hui, notamment si on se méfie, qu'est-ce qu'il faut faire? Un, il faut refonder l'État, il faut créer l'État. Et deux, faire agir l'État. Voilà ce qu'il faut faire dans ce pays. Nous pouvons discuter avec vous, madame, du matin au soir, à chercher des responsabilités, à crier, à gémir, à pleurer, bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refonder l'État. Deux, faire agir l'État dans notre
pays. L'État n'agit pas dans notre pays.
Faire agir l'État sur son problème pour que nous puissions aller de l'avant. De quelle manière? Parce que moi, je vais me situer sur le plan des solutions.
La solution, c'est dans la deuxième partie de notre émission. Je vais passer la parole à Madame Faïda Mwangila, qui est membre du cadre permanent des concertations de la forme congolaise CASCO, plateforme de défense et de protection des droits de l'homme. Vous avez suivi Maître Rufin Aloko du ministère de la Justice, le professeur Kibangu Kalala, en plus d'être professeur, il est député national. Pour eux, la recrudescence, c'est sûrement dû à la guerre, les conséquences de la guerre. À votre vie, vous, en tant que femme et membre de CASCO, une plateforme de défense et protection de la femme, cette recrudescence est due à quoi?
Bon, moi, je crois que nous avons évolué. Ça faisait longtemps, les gens revenaient sur les causes des viols, et on parlait de la recrudescence des viols suite aux conflits armés et tout, mais nous ne sommes plus à la période des guerres. Ça fait 7 ans, depuis qu'il y a eu cessation des hostilités, je crois qu'avec l'accord de paix de Lusaka, c'est depuis mon année. Nous sommes en 2010. Les institutions de la transition, déjà en 2003, à ce moment-là, une organisation locale féminine, dénommée le RAF, Réseau Action Femmes, avait contacté le ministère. Et là, j'étais ministre. Les femmes ont commencé à travailler sur un projet de lutte contre les viols. Et on a examiné les causes et tous les gens reviennent sur les guerres d'agression. Moi, je n'entre pas ici dans le débat des causes. Parce que quand nous sommes une institution, nous constituons un pays post-conflit, il y a eu pas mal d'organisations.
Vous ne pensez pas qu'il faut d'abord rechercher les causes avant de résoudre les conséquences?
Le professeur vient de dire quelque chose de très spécial ici. Je parle de l'honorable Kibangu. Je crois qu'ici, même les scientifiques, les historiens et tout le monde, parce qu'il me semble que nous étions assis sur une sorte d'iceberg
ne sachant pas exactement les causes. Et aujourd'hui, même après les conflits armés, nous avons organisé les élections. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons d'enregistrer de nouveaux cas. Ça commence même à s'étendre. Si les partis qui n'ont pas connu des conflits armés, c'est là que ça devient inquiétant. Et nous devons nous poser des questions sur les causes profondes et comprendre et voir comment nous pouvons trouver des solutions. Et moi, je me dis, l'effondrement de l'appareil de l'État, ça n'a pas commencé avec les conflits armés. Ça a commencé avec les régimes patriotes. Vous êtes dans un régime où chaque service de l'État ne sait plus rendre ce qu'il doit rendre comme service, où ça cadre et tout, ça pose problème. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons dit, j'étais en train de dire ici, et je vais rappeler cela à l'opinion qui m'écoute, nous avons dit un symposium international sur la lutte contre les violences sexuelles dans les pays post-conflit et au-delà des conflits. À Bruxelles, nous sommes en juin 2006, il y avait beaucoup d'intervenants. On est devenu sur les causes, on a des agendas. Les femmes ont travaillé bien avant cela sur l'adoption des lois, l'honorable loi. Nous avons la loi. Mais qu'est-ce que nous faisons avec la loi? Comment faire en sorte qu'on puisse se mettre en fait parce que pourquoi nous, les femmes doivent continuer à vivre une telle humiliation? Et aujourd'hui, qui maîtrise les statistiques? Ça nous pose problème. Chaque personne se réveille et dit, il y a eu autant, est-ce au quel niveau? Nous devons nous poser des problèmes. Poser des questions et de voir comment trouver des voies de sortie. Et ça doit être un engagement collectif. Je parle de tous les citoyens parce que ça fait la honte à un pays que nous sommes. Ce n'est pas question de se rejeter des responsabilités. Quelqu'un dit non, ce sont des rébellions, d'autres, ce sont des militaires armés, ce sont des quoi. Mais non, nous sommes une nation. Et une nation doit lutter contre les antivalets. Ce sont des crimes. Nous sommes devant un problème de droits humains qu'il faut faire respecter.
Merci Madame Faïda Mwandila. Monsieur Rousseau Louko, certaines opinions pensent que si la cause de cette recrudescence serait l'impunité.
Non, pas du tout, madame. Donc, d'ailleurs, je suis évidemment, madame Faïda. Je ne suis pas d'accord avec madame Faïda parce que finalement, tout le monde est d'accord qu'avant les guerres, chez nous, il n'y avait pas de violence de cette nature, de cette ampleur. Ce qui s'est passé à l'Italie il y a quelques mois, au mois de mars, juin, juillet, eh bien, ce n'est pas des groupes armés, c'est l'héritage de la guerre. Ça, c'est l'héritage macabre de la guerre. Nous sommes désolés, donc la recrudescence des violences sexuelles à l'est du pays est intimement liée à la guerre. Désolé, c'est un constat sans vieux pardon. Alors, est-ce que c'est l'impunité? Bon, évidemment, d'autres croiraient que c'est l'impunité, mais les statistiques que nous avons les plus incontestables donnent pour état que sur 100% des plaintes qui arrivent à la justice, 100%, et bien plus de 80 se soldent par une condamnation à la peine de prison. Plus de 80%. Donc, les acquittements, c'est moins de 10%. Et le phénomène établi ou bien les doutes qu'on sort, évidemment, c'est encore en bureau, c'est 5 à 7%. Donc, madame, notre justice, chaque fois qu'elle est saisie par un cas de plainte, nous avons des statistiques, notre justice est debout. La problématique, je vais vous en parler, évidemment, en tant que porte-parole de la justice, c'est que la couverture, n'est-ce pas, des OPJ, la loi dit que ceux qui recherchent les infractions, ce sont les OPJ, les policiers. La couverture de nos OPJ, de nos policiers sur les candidats du territoire national est insuffisante. Ou bien on peut dire non efficiente. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous prenez le territoire de Bassoisende, le plus grand territoire de la République. Il est plus grand que la Belgique, Bassoisende. N'a que 11 policiers. Vous prenez le territoire de Pounia, à Kibumaniema. Moins de 15 policiers. Des grands territoires de la République. Donc cette couverture fait que lorsqu'une violence sexuelle se commet là-bas, pour l'amener à la justice, c'est le parcours du combattant. Ça fait donc que les statistiques des viols qui arrivent à la justice et la chambre noire. Quoi.
Bon, nous venons de perdre Maître Rousseau Louko. J'espère que la réalisation va le retrouver. Professeur Sibangou Kalala, réponse sur cette question d'impunité. Plusieurs victimes se plaignent du fait que lorsqu'ils vont porter plainte, c'est vrai qu'on va arrêter l'auteur du viol et puis quelques jours après il est relâché et ça décourage les victimes.
Oui. Merci madame.
Je pense que la justice n'est pas assez dure avec les auteurs des violences sexuelles faites notamment.
Oui, voilà. Je veux d'abord dire ceci. Une société qui humilie la femme, c'est une société qui va tout droit vers la décadence. Eh bien, nous devons tout faire dans notre pays pour que la femme congolaise soit respectée en toutes circonstances. Eh bien, les violences sexuelles contre la femme doivent être combattues avec la dernière énergie, sans pitié et sans concession. Je vous donnerai au cours de cette émission ce qui se passe en Centrafrique, parce que c'est un cas assez sérieux. Mais pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire? L'impunité. Évidemment, c'est un mot, cette affaire des violences sexuelles, c'est assez complexe. Parfois, il y a des victimes des violences sexuelles qui, par pudeur, n'arrivent pas à présenter leur cas devant la justice. Vous comprenez que c'est un problème assez complexe. C'est humiliant pour la dame d'aller exposer en plein jour. Elle a été agressée dans telle description. C'est humiliant. La femme congolaise a beaucoup de pudeur de ce côté-là. Mais il faut dire aussi que les cas qui arrivent devant la justice, ce sont des cas assez sérieux. Et moi, je ne vois pas comment, comme le porte-parole du ministre de la Justice, le ministre de la Justice vient de le dire, je ne vois pas comment un magistrat va se montrer complaisant et léger lorsqu'on lui amène un cas avéré et bien établi d'une agression sexuelle. Je ne comprends pas ça. Donc, de ce côté-là, on peut dire que les magistrats jouent leur rôle, et pleinement leur rôle. On peut les critiquer pour ce sens-là, pas pour ça. Bon. Il y a un autre problème, c'est le problème des prisons dans notre pays. Bon. Vous condamnez les gens, vous les mettez en prison, mais quelle prison? C'est ça le problème. Le problème, comme la couverture territoriale en matière de procès de sécurité.
Ouais, vous avez parlé des prisons, quelles prisons, les prisons sont comment?
Elles sont dans un état épouvantable. Vous savez, moi, je fais des tours de visiter certaines provinces. Quand on vous montre les prisons, mais vous dites, mais écoutez, on ne peut pas garder quelqu'un ici. Vous le mettez le matin, l'après-midi, il saute parce que c'est ouvert, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. On le fait dans un truc barbac. Est-ce que c'est des bazars où il n'y a pas de protection, où il n'y a pas de gardien? C'est tout à fait normal que vous puissiez trouver deux jours à trois. La personne est dehors. Vous le mettez en prison, madame, et il faut l'amener à manger. Il ne va pas mourir là-bas. Donc, c'est complexe, c'est un problème. C'est pour ça que je vous ai dit que nous avons un problème du fonctionnement de l'État en tant que tel. Le porte-parole du ministère de la Justice l'a dit, et je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous arrivez dans certains territoires, mais il n'y a pas les agents de l'État, ceux qui sont les détenteurs de l'autorité de l'État. Ils ne sont pas là. Vous n'avez pas des OPJ qui doivent rechercher les infractions, arrêter les coupables, être devant le parquet, les déférer devant la justice. Il n'y en a pas. Parce que l'État n'est pas en mesure d'assurer les salaires de ces gens, n'est pas en mesure de les déployer sur l'ensemble du territoire. Donc l'appareil de l'État est défaillant. C'est pour ça que je vous ai dit que si nous voulons lutter efficacement contre ce phénomène, il faut répondre à l'État. Il faut que l'État assure pleinement ses missions. Et quelles sont ses missions, madame? C'est assurer l'ordre dans la cité et assurer la justice. Nous avons deux piliers majeurs de l'État qui ne fonctionnent pas très bien dans notre pays. On ne doit pas chercher la responsabilité individuelle. Nous sommes tous responsables de la situation que nous traversons dans notre pays. Eh bien, nous n'avons pas un bon policier dans ce pays. Vous arrivez dans des coins reculés, il n'y en a pas. Oui, s'ils sont là, ils sont mal payés, mal encadrés, ils ne font pas correctement leur travail. Or, le policier, c'est un pilier important de l'État pour l'ordre et la sécurité. Ça, c'est un. Deux, nous avons le juge et le magistrat. Eh bien, notre pays n'est pas couvert sur l'ensemble du territoire par la justice, par des magistrats, par des cours de tribunaux. On a fait un effort dernièrement, un effort louable, de recruter plus de 1000 magistrats qu'il faut déployer sur l'ensemble du territoire parce que le pays n'est pas sous-jugé, sous-judiciarisé. Donc, ça améliore le système. Et donc, c'est pourquoi il y a beaucoup de cas de violence sexuelle, même d'autres infractions, et ça, qu'on n'arrive pas à punir contre des magistrats, contre des appareils judiciaires. Moi, dernièrement, on m'a téléphoné dans ma circonscription de Tulingué par des autorités judiciaires, qui m'appellent, qui me disent, écoutez, honorable, mais vous êtes à Kinshasa, nous avons un problème ici, dans la circonscription de Tulingué. Il y a une trentaine de personnes qui sont arrêtées au niveau du parquet. Ils sont dans les cachots. Mais ces gens ne peuvent pas rester éternellement au cachot. Il faut les présenter devant le juge. Or, il n'y a pas de juge. Qu'est-ce qu'on fait? On a dépassé tous les délais de détention provisoire. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut que le gouvernement, le ministre de la Justice, nous envoie des juges ici, au tribunal de grande instance, pour qu'on puisse juger les gens. Ce n'est pas un problème seulement pour les cliniques, que moi, c'est l'un des grands descendants des cliniques, c'est un problème qu'on trouve partout dans toute la province. Donc nous avons un problème réel, des difficultés réelles, de déploiement et de fonctionnement normal de la justice sur l'ensemble du territoire. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut refonder l'État. Il faut que l'État arrive à remplir correctement ses missions profondes, assurer l'ordre et la paix sur l'ensemble du territoire. Et qu'il agisse effectivement.
Merci, professeur Tshibangu Kalala, madame Faïda Mouangiloa. En tant que membre d'une plateforme de défense et protection de droits des femmes, comment vous appréciez le fonctionnement de la justice congolaise sur cette question des violences sexuelles faites aux femmes?
Merci beaucoup, madame. Je vais répondre à cette question, mais avant de répondre, je vais dire corriger, parce que M. Ruffin, apparemment, il a toujours été très attentif, mais il me semble que peut-être qu'il était au téléphone. J'ai dit, je n'ai pas dit qu'on doit limiter, je n'ai pas exclu que les conflits armés peuvent aussi constituer les causes. Parce que aussi, pendant les conflits armés, vous le savez bien, il le sait bien que moi, il n'y a pas, les structures de l'État ne sont pas là, pas opérationnelles et tout. Ça constitue les causes. Mais je me dis, aujourd'hui en 2010, à moins que Maître Roussel me dise que nous sommes dans un état de guerre, je ne pense pas. Alors, pour revenir à l'élément principal, le service public, ce sont les services publics qui font d'une nation. Aujourd'hui, sur terrain, nous sommes sur terrain. Il m'arrive des fois dans les cas de mes consultations, je descends sur le terrain quand vous parlez avec toutes ces organisations qui sont des victimes de viol. Elles vous disent, à peine l'infraction commise, la victime se trouve entre les mains d'une association non gouvernementale. Elle se présente auprès des services de l'État, on lui dit revenez demain. La personne n'a pas de transport. Elle revient demain, mais l'organisation ne peut pas faire le suivi du dossier. C'est déjà un problème. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de problèmes au niveau de fonctionnement. Je me rappelle en 2004, il y a eu un jugement public d'un auteur de viol à Kalemie. Mais je me suis après l'annonce de la condamnation. On le condamne pour une durée de 15 ans. Mais il a rigolé. Moi, je me suis dit, mais pourquoi il rigole? Les gens m'ont dit, on est sûr que d'ici deux semaines, peut-être qu'il ira à la prison. Et c'est ce qu'il a fait, il s'est débattu. Donc, là, les conditions ne sont pas réunies. La répression, c'est l'élément fondamental. Parce que quand on sait qu'il y a un violent, je peux passer 20 ans en prison. Les autres savent que depuis que tel a commis l'infraction. Si la personne est en prison, ça fait 7 ans, 8 ans. Mais les gens vont commencer à se poser des questions. Voilà ce que nous voulons aujourd'hui, en tout cas en 2010, novembre 2010. Je ne suis pas d'accord qu'on me dise que non, accepter qu'on continue à violer les femmes parce qu'il y a les conflits armés. Pas question. Les gens doivent se mobiliser pour trouver des solutions.
Alors, Madame Faïda Mangiloa, il y a cet auditeur de l'ICASI d'Éclaire Konkoulou qui dit ceci. Je pense pour ma part que l'État congolais fonde beaucoup d'espoir sur les organismes internationaux qui, en principe, sont censés venir après lui et cela en appuie jusqu'au point d'oublier même ses fonctions régaliennes par rapport à ces viols faits, ou ces violences sexuelles faites aux femmes.
Oui, les organisations de défense des droits de l'homme font beaucoup de travail. Mais je me dis, ce travail-là doit être supporté par les services de l'État, notamment la justice. Parce que même les gens qui aident, peut-être qu'on arrivera aux propositions, on prend les moyens, on donne aux organisations. Mais s'il n'y a pas un droit de regard et de suivi de la part des structures étatiques, là on est devant un problème. On ne peut pas résoudre le problème de cette manière-là. Il y a des agences qui sont dedans. Mais quand les agences, ensemble avec les organisations, et surtout les pouvoirs publics, ne travaillent pas ensemble de manière à harmoniser les points de vue et à laisser la responsabilité aux structures étatiques, surtout en matière de statistiques et tout. Jusque-là, on ne saura pas comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé à tel endroit et tel autre endroit. On aura toujours des problèmes par rapport aux statistiques, mais les organisations font énormément beaucoup de travail. Mais ça ne doit pas rester pour les organisations seulement, y compris les organisations politiques et non pas seulement les organisations de la société civile. Un mal, c'est un mal, il faut les combattre à tous les niveaux. Ça doit être un engagement au niveau de la nation entière.
Merci Madame Faïda. La réalisation me signale que Maître Roussel Louko est en ligne. Maître Roussel, vous êtes en ligne?
Oui, merci. Parce que je suis en ligne, je suis désolé par rapport à ce réseau ici qui nous a pas permis, n'est-ce pas, d'être en ligne par rapport à tous ces commentaires et analyses pour que vous puissiez répondre.
Alors, vous allez répondre à toutes ces analyses faites par le professeur Subban Oukalala et Madame Faïda. Alors, il y a cet auditeur de Kinshasa qui pense que c'est la passivité de la justice congolaise qui est la cause de cette recrudescence de violence sexuelle en RDC.
Oui, madame, nous sommes très conscients des faiblesses, d'abord, de notre administration pénitentiaire. Le maréchal Mobutu avait une vision d'Isaïr sans prison. Et pendant 30 ans, il a abandonné la réflexion et l'entretien des prisons. La plupart de nos pénitentiaires sont en délabrement total. On est en train de réflexionner. Et nous sommes donc désolés par rapport aux recherches que nous avons d'ailleurs faites. Je vais rassurer Mme Faïda que personne n'est fier de ce qu'on fait à nos femmes. Il n'y a pas qu'elle seule. Elle, moi, j'ai fait 9 mois à l'est du pays, ininterrompu, pour que je puisse archiver toutes les violences sexuelles et les deux ouvrages de 500 pages chaque jour. Et il n'y a pas qu'elle seule. Nous tous nous sommes révoltés, outrés par les violences et l'ampleur des violences sexuelles faites à nos frères, nos mamans, nos enfants. Donc, si cette question-là, elle peut être sûre qu'elle n'est pas telle. Le gouvernement s'en met chaque jour. On ne peut pas être fier d'être dans un gouvernement où vous êtes dans un pays, vous êtes la capitale mondiale du viol, c'est ridicule, c'est honteux. Nous nous battons pour éradiquer le phénomène. Elle ne sera pas renversée, ce que j'ai dit. Nous évitons un phénomène calamité de la guerre. Il n'était pas de notre vie. Alors, par rapport à la justice, nous savons, nous sommes conscients de nos faiblesses, madame. Nous sommes conscients de nos faiblesses, la justice. Mais je vous ai dit que notre justice a fait, d'abord, à partir de la justice militaire. Les statistiques, c'est qu'elle est notre fort de lance de la lutte contre les violences sexuelles. Si vous allez à Bukavu, les statistiques sont visibles. La justice militaire, avec le sable de forêt, à Baraka, à Fiji. Si vous allez à Kafoum, les sables forêts, notre justice militaire est de nous. Il n'est pas à moins d'un Kamisou quand nous avons des statistiques. Au nom que vous allez à la justice militaire de Goma, va à Walikale, va à la Makissi, systématiquement. Malheureusement, dans l'ensemble, comme j'ai dit, le problème des moyens. Le problème des moyens. Les recherches ont établi, madame, que les grands cauchemars pour une victime de violence sexuelle, c'est d'apprendre que le bourreau est libre. C'est que la justice doit le condamner, il faut qu'il soit mis hors d'état de nuit. C'est pas comme à Bafassin, où il n'y a pas de pénitentiaire, il reste dans le hangar qu'on appelle prison là-bas, le prisonnier tué. Il faut donc des pénitentiaires. Le gouvernement a déjà pris l'engagement, n'est-ce pas, l'accord avec les Japonais, pour nous construire une prison pilote qui est moderne à Boudia. Et ça va être fait au moins, et en 2011 ici, on va commencer au mois de février, mars, les travaux. Madame, vous nous avez dit sur le transfert croisé, parce que le gouvernement avait décidé que désormais les criminels ne passeront pas la prison chez eux. C'est de bon à aller à Bandoulou, c'est de Bandoulou, aller à Kisangani, c'est de Kisangani, au Kakongo, c'est de Kakongo, au Chaba, ou au Katanga actuellement, et tout ce que ça. Mais nous avons encore également la société bloquée par le problème des moyens, madame. Et là, le député, le confrère Chibango est là, pour répondre au problème des moyens. Sans moyens, madame, nous allons continuer à prier. Je vais vous dire ici par rapport à la couverture des agents qui sont chargés de contacter les grands fiches. La police, nos OTJ. Ils sont monétés de prédit qu'il n'y a pas fait le privé territoire de la République. Ah, les policiers sont vraiment privés de la République. Vous allez à Pounia, vous allez à Kassongo, au Kabombo. C'est moins des 10, c'est 10 policiers. Donc là-dessus, nous devons encore redéployer nos policiers partout. Donc, nous sommes engagés. Là, et vous rappelez, madame Céline, l'engagement de nous, les magistrats, c'est principalement pour lutter contre les violences sexuelles et l'intégrité générale. Donc, la volonté du gouvernement était vous, madame, par rapport à ça. Donc, personne n'est dans le comité de défense de l'État. Pour nous, la justice et la réformation de l'État passent par la nomination des magistrats, la couverture du territoire national à magistrats. Donc, je considère donc que par rapport à ça, on peut ne plus être modéré. Il y a des efforts qui sont faits, mais juste pour que les gens soient clairs par rapport à l'effectivité de l'action que nous sommes en train de faire. Donc,
merci.
Pour dire simplement, madame, ma conclusion par rapport à ce niveau en analyse, le gouvernement a décidé de descendre la commission de facture. Parce que, madame, ce qui se passe à la télé, en termes de publicité de porteuses alcooliques, ce qui se passe en termes de minutes obscènes, de cris obscènes, vous avez vu, la commission de facture a interdit le cri combattant. Nous avons interdit ce cri, parce que nous considérons que ce cri est attentatoire au même et a un caractère d'incitation, n'est-ce pas, au viol ou à l'immoralité. Donc nous allons continuer systématiquement à interdire ce genre de cri.
Merci.
Nous considérons principalement que nous devons attaquer le mal par la racine, la musique, les cris, nos musiciens et tout ce qui a du valeur, les corps dans les filles qui portent les habits, les corps qui provoquent ces gisements-là, et puis à Kisangani, on a fait ça, on n'a pas compris, on n'a fait ça à Kinshasa, à Lugano, à Kinshasa, donc il faut vraiment qu'on combatte tous ces aspects-là pour que les gens ne puissent pas crier tellement qu'on se fait. Alors que les causes, nous le connaissons, nous ne combattons pas. Avec ces publicités, tapages, d'alcool, des drogues de consommation.
Vous l'avez déjà dit, d'accord, conseil, merci beaucoup. Voilà, Dialogue en choix congolais de ce soir parle de la récrudescence des violences sexuelles. Ce sont 17 cas enregistrés par le Centre d'intervention psychosociale de Kisangani entre le mois d'avril et octobre 2010 dans le Haut-Ouélé, dont 79 cas pour le seul mois d'octobre. Se faire pour réprimer effectivement les auteurs de ces actes, c'est la deuxième partie de cette émission. Participe au débat Maître Rufin Louko, conseiller juridique et porte-parole du ministre de la Justice et des Droits Humains du gouvernement central, professeur Tibangu Kalala, professeur de droit et député national de la majorité, et Madame Faïda Mwangiloa, elle est membre du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CASCO, plateforme de défense et de protection des droits des femmes. La suite de l'émission, c'est après le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 738.
Se faire pour réprimer effectivement les auteurs de violences sexuelles en RDC. Epiphane Zoro, coordonnateur, unité justice transitionnelle et lutte contre l'impunité au bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, pense qu'il faut d'abord commencer par rétablir la paix et la justice à l'est du pays, car la plupart des auteurs de ces actes se recrutent parmi les hommes en armes. Epiphane Zoro s'exprime à ce sujet au téléphone de Samuel Katak.
L'impératif numéro un, c'est le rétablissement de la paix. Le Haut-Ouélé, l'Est, le Nord Kivu sont des zones où il y a encore des poches de conflits armés. Et tant que ces conflits persistent, il y a certainement des risques que les violences sexuelles continuent de se produire. Il y a également la question du nombre de magistrats insuffisant. La plupart des auteurs de violences sexuelles sont des militaires. Et tant qu'il n'y a pas assez de magistrats militaires, cela va poser des problèmes dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles. Tant que les magistrats chargés des enquêtes n'ont pas de moyens pour se faire, sera très difficile pour eux de démontrer leur efficacité sur le terrain. Il est vrai qu'il y a un certain nombre de projets menés par les partenaires du gouvernement, la MONUSCO, pour aider le gouvernement, mais la responsabilité ultime appartient au gouvernement.
Le professeur Tibangu Kalala, que faire pour réprimer effectivement les auteurs de ces actes?
Oui, alors voilà, ça c'est le point essentiel de ce débat. C'est vrai qu'il y a des questions qui concernent la formation, l'éducation de la population dans son ensemble, l'éducation de la femme elle-même. Il y a tous ces aspects qui concernent la lutte contre le chômage, parce que tous ces jeunes gens qui restent sans travail du matin au soir, eh bien, se livrent à la délinquance. Bon, ça, c'est un volet à part, on peut en parler avec des sociologues, etc. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le mal est là, comment réprimer? Comme je le dis.
Effectivement, les auteurs.
Effectivement, les auteurs. Et c'est ça. C'est ça la politique pénale de pays. Il y a un mal, il y a une série de fractions, il faut définir une politique pénale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre les criminels, les punir et les respecter de la société? Eh bien, première chose, à mon avis, l'État doit agir. Comme je dis, il reprend de l'État. Il doit agir. Et comme les exemples que vient de donner le porte-parole du ministre de la Justice, c'est déjà dans la bonne voie. On arrête un criminel, on ne le laisse pas dans le milieu où il a commis l'infraction, on l'envoie ailleurs dans le pays. C'est déjà bien. Comme ça, la victime sait très bien que le bourreau est ailleurs et ne va plus revenir demain pour agir, sans hésitation. Mais le problème est essentiel, madame. On peut dire devant son micro qu'il faut répondre à l'État, il faut que l'État agisse, c'est bien beau. Mais l'État ne peut pas agir sans moyens, madame. Il faut de l'argent, quand on dit moyen, il faut de l'argent. Bon, il faut qu'on ait un budget consistant, n'est-ce pas, qui peut permettre aux autorités, à l'État en général, de débloquer des crédits nécessaires pour résoudre. On a parlé de la question, par exemple, des prisons. Mais pour condamner quelqu'un, vous allez le garder où? Il n'y a pas de prison d'une décennie à travers le pays. C'est n'importe quoi. Mais tout ça, de deux, il y a l'appareil judiciaire qui doit fonctionner. Ça fait partie des moyens. Le conseil, le porte-parole du ministre de la Justice, le collègue Louko, dit bon, le député est là, il doit résoudre le problème de moyens. C'est pas le député qui doit mettre sa main dans sa poche pour renflouer les caisses de l'État. Moi-même, je suis peiné chaque fois que je vois le budget qui est alloué au service de la justice, le budget du ministère de la justice. C'est pitoyable. Alors que la justice est un pilier important de l'État. Le ministre de la justice de notre pays n'a pas de moyens de sa politique. Il n'a rien du tout. Ni en termes de frais de fonctionnement, ni en termes d'investissement, il n'a rien.
Il ne pas des moyens.
Il ne pas des moyens, mais ces moyens, si nous voulons avoir un État qui fonctionne, madame, si nous voulons régler tous ces problèmes, notre peuple doit payer le prix qu'il faut pour que l'État marche. Et donc, encore une fois, nous revenons à ce qu'on appelle le civisme fiscal. Eh bien, ce ne sont pas les ONG qui vont régler le problème, madame Saïd l'a dit. C'est perdre des temps, comme l'auditeur l'a dit. On ne va pas confier la responsabilité du bon fonctionnement de l'État, de l'État, aux ONG. Donc, c'est notre peuple qui doit donner des moyens nécessaires, en termes d'impôts et de taxes, donner à l'État, pour que le gouvernement puisse gérer ses affaires. Tant que nous ne serons pas en mesure d'avoir dans ce pays un budget consistant, et aussi une bonne gestion des finances publiques, parce qu'il ne suffit pas qu'on vous donne de l'argent,
mais
il faut bien gérer ça correctement, affecter l'argent là où il faut bien affecter, donner les moyens nécessaires, n'est-ce pas, à l'État, pour que ça fonctionne. Sans cela, nous allons continuer à nous travailler du matin au soir, à nous jeter des responsabilités les autres.
Merci, professeur. Madame Saïda, qu'est-ce que vous proposez pour réprimer effectivement les auteurs de ces violences sexuelles?
Je crois qu'il y a eu le slogan « La tolérance est zéro ». La tolérance est zéro ne doit souffrir d'aucune exception en matière de viol. Moi, je crois que les institutions congolaises doivent nous rassurer par rapport à ça, surtout les institutions judiciaires, d'aucune exception. Parce qu'il me semble, même au niveau de la base, vous trouvez une dame de 25 ans violée par un monsieur, peut-être de 30 ans, les gens commencent à minimiser. Mais le viol, là, c'est quoi? C'est quand même une grande femme. Donc, moi, je crois que la tolérance du héros ne doit souffrir d'aucune exception. Et c'est à tous les niveaux, quel que soit l'auteur ou le niveau de l'auteur ou le statut de l'auteur. De deux, la communication. En tout cas, il faut renforcer la communication pour le changement des comportements et d'autres mesures visant à prévenir et à restaurer les valeurs sociales positives. Je ne peux pas comprendre. Comment un monsieur, un jeune homme de 30 ans, va violer une vieille femme ou va violer un enfant? Ça, nous sommes au-delà des valeurs universelles qu'il faut protéger. Là, il faut une grande campagne. Et alors,
qui va faire cette campagne?
La campagne, là, c'est tout le monde. Et appuyé par les structures étatiques, appuyé par les institutions étatiques, et surtout les députés et tout le monde. Moi, je crois que la campagne, là, est très importante. Tous les journalistes, tout le monde doit se mobiliser. Mais aussi, il faut continuer de voir la manière dont les fonds sont gérés. Les fonds, beaucoup d'organismes viennent en appui aux victimes de viol. Mais pourquoi ne pas renforcer, par exemple, les structures juridiques? Il faut continuer à les renforcer. On doit voir comment les fonds sont gérés et ça doit se faire de manière tout à fait transparente. Moi, je crois qu'en cette matière-là, il faut veiller et veiller parce que.
Rapidement, madame, nous sommes vers la fin de l'émission.
Je suis en train de dire, nous avons également un plan d'action pour la mise en œuvre de la 1325, de la résolution 1325 qui parle de la femme, la paix et tout. Ce plan d'action a été adopté par les institutions, par les organisations féminines. Je crois que c'est ce plan d'action. Si vous allez ici chez vous, au niveau du bureau, là, vous trouvez ce plan qui est piloté par le ministère du genre. Le ministère doit être appuyé pour la réalisation, la matérialisation de ce plan d'action de mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Merci, madame Saïda, pour vos propositions. Je les considère aussi comme votre conclusion. Maître Russa Louko, le ministre, le ministère fait quoi pour réprimer effectivement les auteurs de violences?
Vous avez donné à tout le monde plus de 5 minutes.
Nous sommes à la fin de notre émission.
Le zéro ne fera rien du tout sur le gouvernement. Le moyen, donc, c'est la grande solution, madame. Il faut d'abord comment faire. Il faut d'abord que les FDLR puissent rentrer chez eux. Et ça, c'est partout le moyen. Il a dit qu'ils doivent rentrer chez eux, notamment par les négociations. Parce que ça ne pratique pas et la criminalité des grands électeurs continue. Par la négociation avec le gouvernement là-bas, ils rentrent chez eux. Et donc, de toute façon, en déplaisant Madame Saïda Mandela, il faut que les groupes armés sortent dans notre pays, notamment de ce pays. Il faut qu'on cesse également avec les transactions autour du viol, parce que ça devient une source d'argent à l'est du pays pour certaines familles et en ouest, notamment au Bakongo et au Bandundu, ils sont confiés, ils savaient que les négociations dans la ville de Kinshasa et à Lubumbashi, des négociations autour de la section. Et c'est également la suppression des immunités en général, parce que nous avons arrêté des cas de députés. Des députés qui ont été auteurs de violences sexuelles à Kitambo, à Kindu et à Goma, mais il n'y a pas moyen de les atteindre, nos magistrats sont incapables de les atteindre parce qu'ils sont immunisés. Il faut donc que Papi Kossem, ceux-là, ont pu supprimer leur immunité. Et après, madame, le ministère est en train de faire quoi?
On va faire tout pour l'heure. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci, c'est la fin de Dialogue entre Congolais. Merci à toute l'équipe. Kelly Nkoutou vous l'a présenté, Alain Goïté à la technique. Rétribution le mec à se faire hors des films, ça. Bonne suite du programme sur la fréquence de la paix. Okay.